Donc nous sommes ce matin dans Daniel chapitre 6, nous poursuivons notre série dans ce livre de l'Ancien Testament, donc c'est à la page 575, Daniel chapitre 6, on va lire à partir du verset 2, la page 575. Et avant de lire le passage, je vais prier pour nous. Merci à notre bon Père Céleste pour ta parole, cette parole qui est vivante, cette parole qui nous a conduits à la foi, qui nous a convertis, cette parole qui nous a vivifiés par l'Esprit. Et Père, nous allons te demander de nous nourrir ce matin par cette même parole. Nous faire du bien, nous corriger, nous instruire, nous fortifier. Nous avons besoin de ta parole ce matin. Et Père, je veux te demander également de m'aider à l'expliquer, à l'annoncer avec clarté, avec fidélité. Et cela pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Daniel chapitre 6, verset 2. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 administrateurs qui devaient être répartis dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 responsables, parmi lesquels figurait Daniel, afin que les administrateurs leur rendent des comptes et que le roi ne subisse aucun dommage. Daniel se montrait supérieur aux autres responsables et aux administrateurs parce qu'il avait en lui un esprit extraordinaire. Le roi pensait à lui confier la responsabilité de tout le royaume. Les responsables et les administrateurs cherchaient alors une occasion d'accuser Daniel en rapport avec les affaires du royaume. Cependant, ils ne purent trouver aucune occasion de le faire, aucune faute de sa part, parce qu'il était fidèle et qu'on ne trouvait chez lui ni négligence, ni faute. Ces hommes dirent, nous ne trouverons aucun motif d'accusation contre ce Daniel, à moins d'en trouver un dans la loi de son Dieu. Puis ses responsables et ses administrateurs se précipitèrent vers le roi et lui dirent « Roi Darius, puisses-tu vivre toujours ?» Tous les responsables du royaume, les intendants, les administrateurs, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis que le roi proclame un édit comportant une interdiction sévère. Toute personne qui, dans l'espace de 30 jours, adressera des prières à un autre Dieu ou homme, que toi, roi, sera jeté dans la fosse au lion. Maintenant, roi, confirme l'interdiction et écris le décret afin qu'il ne puisse pas être modifié, comme la loi des Mèdes et des Perses qui est irrévocable. Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret d'interdiction. Lorsque Daniel fut au courant de la rédaction de ce décret, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre à l'étage étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. 3 fois par jour, il se mettait à genoux, priait et exprimait sa reconnaissance à son Dieu, tout comme il le faisait avant. Alors ces hommes se précipitèrent et trouvèrent Daniel en train de prier et de supplier son Dieu. Puis ils se présentèrent devant le roi. Et lui parlèrent de l'interdiction royale. N'as-tu pas écrit une interdiction d'après laquelle toute personne qui, dans l'espace de 30 jours, adresserait des prières à un autre Dieu ou homme que toi, roi, serait jeté dans la fosse au lion? Le roi répondit, cet ordre est aussi sûr que la loi des Mèdes et des Perses qui est irrévocable. Ils prièrent de nouveau la parole et dirent au roi, Daniel, l'un des exilés de Juda, n'a tenu aucun compte de toi, roi, ni de l'interdiction que tu as écrite. Et il fait sa prière 3 fois par jour. Le roi fut très attristé quand il entendit cela. Il prit à cœur de délivrer Daniel et jusqu'au coucher du soleil, il s'efforça de le sauver. Mais ses hommes insistèrent auprès du roi et lui dirent, « Sache, roi, que d'après la loi des Mèdes et des Perses, aucune interdiction ni aucun décret confirmé par le roi ne peut être modifié. » Alors le roi donna l'ordre de faire venir Daniel et de le jeter dans la fosse au lion. Le roi dit à Daniel, « Que ton Dieu que tu sers avec persévérance veuille te délivrer. » On apporta une pierre et on la plaça sur l'ouverture de la fosse. Le roi y apposa l'empreinte de son anneau et de l'anneau de ses hauts fonctionnaires, afin que rien ne puisse être modifié pour Daniel. Le roi se rendit ensuite dans son palais, il passa la nuit sans manger, sans faire venir de danseuses devant lui et sans parvenir à trouver le sommeil. Le roi se leva tôt le matin avec l'aurore et se précipita à la fosse au lion. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste et lui demanda « Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu, que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions ?» Daniel répondit au roi « Roi, puisses-tu vivre toujours ?» « Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions. Ils ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. Devant toi non plus, roi, je n'avais fait rien de mal. » Le roi fut alors tout heureux et ordonna de faire sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse. On ne trouva aucune blessure sur lui parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Le roi ordonna que les accusateurs de Daniel soient amenés et jetés dans la fosse aux lions avec leurs enfants et leurs femmes. Avant qu'ils ne soient parvenus au fond de la fosse, les lions les attrapèrent et brisèrent tous leurs os. Après cela, le roi Darius écrivit à tous les peuples, à toutes les nations, aux hommes de toute langue qui habitaient tout l'empire, « Que la paix vous soit donnée en abondance. » J'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et un profond respect pour le Dieu de Daniel. En effet, il est le Dieu vivant et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. C'est lui qui délivre et qui sauve, qui accomplit des signes et des miracles dans le ciel et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la griffe des lions. Daniel prospéra sous le règne de Darius, c'est-à-dire de Cyrus le Perse. Jusqu'ici la parole de Dieu. Alors, ce matin, nous abordons donc le passage le plus connu de ce livre, Daniel et la fosse aux lions. Alors, si vous avez grandi dans l'Église, on vous a certainement raconté cette histoire. C'est un récit de courage, un récit de danger, un récit de délivrance miraculeuse. Ces dernières années, Hollywood s'est beaucoup intéressé au récit de la Bible. On a eu une version assez romancée de la vie de Noé. Et plus récemment, il y avait un film sur la vie de Moïse et sans doute peut-être déjà il prépare un film sur la vie de Daniel et sur ce passage en particulier. Daniel et la fosse aux lions. Alors la tentation avec de tels récits, c'est de les appliquer très directement à nos vies. Quelle est la fosse aux lions dans votre vie? Quelle est la fosse aux lions à laquelle vous faites face en ce moment? Peut-être au travail, c'est très dur. Peut-être c'est un panier de crabes avec vos collègues. Peut-être votre mariage est en danger et vous ne savez pas comment vous allez vous en sortir. Ou peut-être que votre famille non-croyante vous ridiculise. Et vous vous posez la question, comment est-ce que je vais persévérer dans la foi? Si seulement Dieu me délivrera comme il a délivré Daniel. Et c'est vrai, il a délivré Daniel. Et on peut se poser la question, on peut dire, voilà, je veux appliquer ce passage tel quel à ma vie et m'attendre à une délivrance miraculeuse. Alors on va voir quand même que ce passage est un puissant encouragement à persévérer dans la foi. Mais nous n'allons pas l'appliquer de manière directe, comme si ce passage était une simple allégorie de la vie chrétienne. Comme si on pouvait juste voir les détails de l'histoire et les appliquer tels quels à nos vies. Lorsque nous étudions de tels passages dans l'Ancien Testament, nous avons besoin de comprendre le message de l'auteur. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Qu'est-ce qu'il voulait dire à ses lecteurs au début? Et ensuite, comme Jésus nous l'enseigne, nous avons besoin de voir comment ce passage, comment le message que Daniel donnait à ses lecteurs, comment ce message pointe vers Jésus-Christ. Comment est-ce que ce passage dans l'Ancien Testament nous annonce l'Évangile et Jésus-Christ lui-même? Cet Évangile où on est libéré de nos fautes par la croix de Jésus-Christ pour devenir enfin des enfants bien-aimés du Père. Alors, comme dans d'autres passages que nous avons vus dans Daniel, c'est le témoignage de ce roi païen qui nous met sur la bonne piste. Alors, au chapitre 6, nous avons affaire au roi Darius, Darius le Mède, un roi ou un gouverneur qui était probablement placé sur le trône ou qui devait régner à Babylone pour le compte de Cyrus, le Perse. Alors, qu'est-ce qu'il dit exactement? C'est à la fin du passage, au verset 26, c'est sa proclamation à la fin de l'histoire. Et là, il dit « Que la paix vous soit donnée en abondance. J'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et un profond respect pour le Dieu de Daniel. En effet, il est le Dieu vivant et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit. Et sa domination durera jusqu'à la fin. C'est lui qui délivre et qui sauve, qui accomplit des signes et des miracles dans le ciel et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la griffe des lions. Si l'Éternel, si le Dieu de Daniel peut le délivrer, c'est parce que son royaume ne sera jamais détruit. Alors le livre de Daniel nous le montrait clairement, on l'a vu ces dernières semaines, il y a un autre royaume qui lutte contre celui de Dieu. Il y a un royaume humain empreint d'orgueil, empreint de rébellion, et ce royaume marque chaque aspect de la vie humaine, de nos vies aussi. Mais quelles que soient les tentatives de mettre à bas le royaume de Dieu, ces tentatives ne vont pas réussir, parce que le royaume de Dieu résistera et vaincra. Et ce récit de Daniel et la fosse aux lions nous le montre. Le royaume de Dieu ne sera jamais détruit. Jamais. Jamais vaincu. C'est un peu comme dans le Nouveau Testament, lorsque Jésus nous dit, Jésus, le roi du royaume de Dieu, dit à ses disciples, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre l'Église. C'est-à-dire contre le royaume, contre le peuple du royaume. Notre passage ce matin va nous montrer comment vivre avec cette conviction-là. Comment vivre avec cette conviction face aux tentatives de mettre à bas notre foi, de détruire notre espérance, de démolir notre obéissance. On va commencer avec, en voyant clairement, une tentative sournoise de destruction. C'est notre premier point ce matin, une tentative sournoise de destruction. Le royaume qui s'oppose à Dieu et à son peuple est bien à l'œuvre, on le voit dans ce passage. Il est bien à l'œuvre aujourd'hui encore. Les premiers versets de notre récit nous parlent de l'organisation de la vie politique à Babylone, sous le règne de Darius et Cyrus. Nous l'avons vu la semaine dernière, le dernier roi babylonien, ou peut-être plutôt son régent, Belshazzar, n'est plus. Il est mort. Dieu l'a jugé de manière décisive, de manière finale. Et dans sa souveraineté, Dieu a donné le royaume de Babylone à un autre. Il a donné au royaume des Mèdes et des Perses. Et on voit ici que Darius veut restructurer l'administration. Il nomme des administrateurs et au-dessus des administrateurs, il nomme 3 gouverneurs. En fait, il sait que les administrateurs ne vont pas forcément gouverner de manière efficace ou de manière honnête. Ils vont peut-être s'en mettre plein les poches. Et donc, il nomme 3 gouverneurs pour qu'ils ne subissent aucun dommage. Et notre Daniel est un de ces gouverneurs. Et rapidement, on voit qu'il gagne la confiance du roi. Selon le verset 4, on voit que Darius pensait confier à Daniel toute la responsabilité du royaume. Pourquoi ? Parce qu'il a en lui un esprit extraordinaire. On l'a vu ces dernières semaines dans d'autres passages. Daniel est un Israélite fidèle, rempli de l'esprit de Dieu. Il est sage, il est honnête, il est loyal. Et Darius sait qu'il peut compter sur lui pour protéger ses intérêts. Daniel est non seulement fidèle à l'Éternel, mais cette fidélité à l'Éternel le conduit à être fidèle aussi à Darius, à faire son travail de manière honnête, de manière fidèle. On voit que cette fidélité-là ne fait pas de lui un homme populaire, loin s'en faut. Il y a peut-être là aussi une leçon de sagesse pour nous, hein, la fidélité envers Dieu, peut-être l'honnêteté au travail, ne va pas forcément nous gagner la faveur de ceux qui nous entourent. On voit en tout cas ici que ses subordonnés le détestent de manière viscérale, parce que sa fidélité les empêche de se mettre plein les poches, de s'en mettre plein les poches. Ils veulent sa peau. Et on voit ici qu'ils sont prêts à utiliser tous les moyens, même les moyens les plus bas, pour se débarrasser de Daniel. Alors, puisqu'ils ne trouvent aucun motif professionnel, ils s'en prennent à lui d'une autre manière, d'un autre angle, celui de sa fidélité à Dieu. Et là, on voit qu'ils posent un piège pour Daniel. Et pour y arriver, ils piègent aussi le roi Darius, en usant de la flatterie, en l'aveuglant par son orgueil, en lui racontant un mensonge qu'en quoi tous souhaitent ce décret. C'est pas vrai. Daniel ne le souhaite pas. Qu'est-ce qu'ils font? Ils manipulent ce roi. Ils le manipulent pour qu'il passe ce décret, cette loi irrévocable, cette loi qui va faire de lui le seul et unique sujet d'adoration pendant un mois. On voit que ces hommes sont prêts à tout pour écarter Daniel, pour écarter cet homme qui leur fait de l'ombre, qui les empêche de s'épanouir dans la corruption. En fait, c'est une tentative sournoise de détruire un homme fidèle. Un homme fidèle au Dieu vivant et vrai. Comme Jésus a expliqué à ses disciples sur le chemin d'Emmaüs, dans la souveraineté de Dieu, ses écrits, ses récits de l'Ancien Testament nous pointent vers Jésus. Dans la structure même. Et en fait, c'est vrai que cette tentative sournoise de destruction nous fait penser à Jésus. Le conseil des prêtres et le Sanhédrin ont cherché un faux témoignage, des faux témoignages pour faire mourir Jésus. Ils ont cherché par tous les moyens de le condamner. Lors de son procès truqué, Daniel a cité Daniel 7, on va voir ça la semaine prochaine. Et finalement, ils l'ont accusé de blasphème, lui qui est Dieu le Fils. Et ce croyant, Daniel, on voit qu'il a marché avant l'heure sur les traces de son Seigneur Jésus-Christ. Il ne faudrait pas nous en étonner si en suivant Jésus-Christ aujourd'hui, nous devons suivre sur les mêmes traces. La fidélité persistante, constante à l'Éternel n'a jamais été une source de popularité. Alors le piège étant posé, qu'est-ce qui se passe? Notre deuxième point ce matin concerne l'attitude de Daniel. On décerne chez lui une fidélité constante malgré tout. Ça, c'est notre deuxième point. Une fidélité constante malgré tout. La loi passe, le décret entre en vigueur, et sans doute tous ses administrateurs se réjouissent. Enfin, Daniel est piégé. On va se débarrasser de lui. Et on voit au verset 12 qu'il se précipite pour voir Daniel. Qu'est-ce qu'il va faire? Il le guette, ses prochains pas. Qu'est-ce qu'il va faire? La tentative sournoise, pernicieuse de l'abattre en quelque sorte est bien en route. Et ils sont confiants qu'ils vont l'avoir. On va relire le verset 11 parce qu'il nous montre comment la conviction conviction que le royaume de Dieu ne sera jamais détruit ou les portes du séjour ne vont jamais prévaloir contre l'Église se manifeste dans la vie d'un croyant. Comment cette conviction se manifeste? Verset 11. Lorsque Daniel fut au courant de la rédaction de ce décret, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre à l'étage étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Trois fois par jour, il se mettait à genoux, priait et exprimait sa reconnaissance à son Dieu, tout comme il le faisait avant. Alors qu'est-ce qui se passe? Rien. Du moins, rien ne change. Tranquillement, dans la paix, Daniel continue comme si rien n'avait changé. Alors Daniel aurait pu se dire, alors ce n'est qu'un petit mois, que 30 jours. Qu'est-ce que ça change si je cesse de prier? Daniel aurait pu faire preuve de pragmatisme. Il aurait pu faire preuve de laxisme aussi. Bon, quand même, juste une petite infidélité à Dieu. Bon, de toute façon, il comprendra, les temps sont durs. Mais non. Daniel est un homme profondément fidèle. Alors, il est déjà un homme âgé. Au chapitre 1, on l'a vu jeune, il avait peut-être 16 ans au chapitre 1, mais ici, il a probablement plus de 70 ans. Et Daniel a servi l'Éternel toute sa vie. Il a prié trois fois par jour pendant de longues années. Cesser de lui prier. En fait, c'est cesser de l'adorer. C'est cesser de le reconnaître comme le vrai souverain de sa vie et comme le vrai souverain de l'univers. Et Daniel voit très clair. Daniel ne laisse pas le pragmatisme si cher de notre époque ou le laxisme moral qui est parfois si endémique dans l'Église. Il laisse pas ces choses prendre le dessus. Il voit clair. Et si Daniel tient bon, si Daniel reste fidèle à l'Éternel, en fait, c'est parce qu'il a appris la fidélité. Daniel a posé de bonnes habitudes dans sa vie. On voit ici, l'exemple qui est donné, c'est l'exemple de la prière. Il est un homme de prière. Ses prières, comme on va voir au chapitre 9, sont centrées sur Dieu, centrées sur les promesses de Dieu pour son peuple. Puisque Daniel connaissant Dieu, on voit ici qu'il est rempli de reconnaissance envers Dieu, même dans l'épreuve. Même sachant qu'il y a ces hommes qui le guettent, il est rempli de reconnaissance à l'égard de Dieu. Et parce qu'il connaît sa propre faiblesse, il dépend de Dieu dans la prière. Comme Darius dit lui-même deux fois, au verset 17 et au verset 21, Daniel sert son Dieu de manière persévérante. Sa fidélité est constante. Du coup, Daniel ne se cache pas. Daniel n'a rien à se reprocher, rien à cacher. Non, il sait que Dieu est Dieu, que c'est lui le vrai souverain. Et donc, qu'est-ce que l'homme peut lui faire? Certes, il risque la mort, ça il le sait. Mais il sait que Dieu maîtrise toutes choses. C'est lui qui est souverain sur tout ce qui nous arrive dans la vie. Il est le Dieu qui fait concourir à toutes choses au bien de ceux qu'il aime. Et Daniel sait tout cela. Il sait tout cela depuis des années. Et en fait, ça se voit dans ses habitudes quotidiennes. Il est un homme de prière. Il a été depuis belle lurette. Je pense qu'il y a certainement une leçon de sagesse là pour nous aussi. Comment est-ce que Dieu nous fait persévérer malgré les épreuves qui ne cessent pas avec l'âge? En fait, il nous fait persévérer par la discipline, par de bonnes habitudes fidèles. Et c'est vrai que l'exemple de Daniel est bien parlant. Alors j'avoue, la prière n'est pas facile. Elle engage la foi en le Dieu qu'on ne voit pas. Je pense que la prière est quelque chose de beaucoup plus difficile que la lecture biblique. Le fait d'avoir ses habitudes, le fait d'avoir une routine peut bien nous aider. 3 fois par jour. Et c'est parfois bien d'avoir des moments réguliers dans la journée. On voit ici que Daniel se tournait vers Jérusalem. Il s'agenouillait. Alors nous n'avons pas besoin de nous tourner vers Jérusalem dans la prière. Nous vivons à l'époque de l'Esprit. Mais nous pouvons nous agenouiller devant Dieu. Je ne sais pas si vous le faites de temps en temps. En fait, parfois, nos gestes physiques dans la prière peuvent nous aider à rester concentrés. Et aussi, c'est tout le symbolisme de la soumission devant Dieu. Personnellement, je trouve cette question de la discipline difficile et je pense que sans doute, si on devait faire un tour de la salle ce matin, je pense qu'on verrait ce témoignage revenir souvent. C'est difficile d'être discipliné. C'est bien d'en parler entre nous, en fait, de s'encourager mutuellement, parfois de prier ensemble avec d'autres personnes, peut-être de prier aussi avec un conjoint. Ça peut aider aussi dans ce domaine. On a besoin de poser de bonnes habitudes dans nos vies. Alors, mais Daniel est beaucoup plus qu'un simple exemple d'un homme de prière. En fait, sans le savoir, il nous pointe vers Jésus-Christ. Parce que Jésus est vraiment cet homme de fidélité constante par excellence. Il est cet homme qui a été fidèle là où nous avons été infidèles, là où nous sommes incapables d'être fidèles. Jésus, on le voit dans la prière. Souvent dans les évangiles, on voit qu'il prie, qu'il passe un moment avec son Père tout le matin. On le voit aussi dans le jardin de Gethsémani. Et même sur la croix. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Jusqu'à la fin, la communion avec son Père lui est précieuse. En fait, Jésus sait dépendre de Dieu dans la prière. Dans le jardin de Gethsémani, il lui remet sa faiblesse humaine. Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Et ensuite, on voit que Jésus persévère. Jésus ne se cache pas. Jésus va délibérément à la croix. C'est parce que Jésus est cet homme de fidélité constante par excellence. Et la fidélité de Daniel et la fidélité de Jésus sont animées par la conviction que le royaume de Dieu ne sera jamais détruit. Ou que les portes du séjour des morts ne prévaudront jamais contre l'Église. Et c'est cette conviction-là qui conduit à l'humble dépendance de Dieu, à cette fidélité constante. On peut lui faire confiance, même quand notre existence est en jeu. Et ça, sans parler de nos emplois ou de nos carrières, nos finances, nos familles, nos réputations et je ne sais pas quoi. Ensuite, nous avons la délivrance de Daniel de la fosse au lion. La loi des Mèdes et des Perses est irrévocable, mais on voit ici qu'il y a une loi beaucoup plus puissante, celle de Dieu. Voici notre troisième volet ce matin. Une tentative sournoise de destruction, mais une fidélité constante. Troisième point, car le royaume de Dieu ne sera jamais détruit. Alors Daniel ne nous donne pas beaucoup de détails. Le verset 23 nous décrit sobrement la délivrance de Dieu. Daniel dit, « Mon Dieu a envoyé son ange et a fermé la gueule des lions. Ils ne m'ont fait aucun mal parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. Depuis toi non plus, roi, je n'avais rien fait de mal. » Alors, dans le passage au chapitre 3, sur la fournaise ardente, on voit que Dieu n'était pas tenu de délivrer les amis de Daniel. On ne peut pas dicter à Dieu comment ou quand il doit nous délivrer. Sans doute, beaucoup d'entre nous pourraient témoigner ce matin de fardeaux lourds que pour une raison ou pour une autre, Dieu n'enlève pas pour l'instant. Dieu est souverain. Dieu est libre. Dieu fait ce qu'il désire. Il fait concourir toutes choses pour notre bien. Il fait concourir toutes choses pour sa gloire. Et ici, dans ce passage, Dieu est tout aussi libre. Il aurait pu choisir de ne pas sauver Daniel. Mais il l'a fait. Et il l'a fait pour nous parler avant l'heure de l'évangile. Alors, comment est-ce que Daniel nous raconte l'évangile avant l'heure? Est-ce que vous voyez comment dans ce passage, Daniel accentue le fait qu'il a été trouvé innocent devant Dieu? Et Dieu lui a rendu la vie, en quelque sorte. Il a arraché de la gueule de la mort parce qu'il l'a trouvé innocent. Nous avons en Daniel un petit aperçu du serviteur fidèle, innocent, que 600 ans plus tard, Dieu va ressusciter d'entre les morts. Oui, Daniel avait l'air terminé, hors course, fini. Et sans doute, ses ennemis rigolaient, ricanaient. Enfin, il s'était débarrassé de ce Judéen. Il était dans la fosse. C'en était fini de lui, mais c'était sans compter sur le Dieu souverain. Le Dieu souverain dans le royaume ne sera jamais détruit. De la même manière, Jésus apparaissait terminé, hors course, fini. Son corps gisait dans la tombe. Les hommes méchants s'y débarrassaient de lui. Satan devait se réjouir. Mais c'était sans compter sur le Dieu souverain, celui dont le royaume ne sera jamais détruit. Tout comme les ennemis de Daniel ont été promptement tués, la résurrection de Jésus-Christ a signalé la défaite totale de celui qui, depuis le jardin d'Éden, a voulu la destruction de l'homme, cet homme que Dieu a créé, à savoir le diable. Comment ça ? C'est la défaite totale parce qu'à la croix, Jésus a payé la facture des fautes de son peuple. Jésus a été condamné par Dieu à la place de son peuple, pour que son peuple puisse échapper de manière juste à la juste colère de Dieu à l'égard de ses fautes. Le juste serviteur a pris la place des coupables. Du coup, pour tous ceux qui mettent la confiance en Jésus dans la repentance et la foi, il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de mort judiciaire. Jésus l'a prise à notre place. Si nous mettons notre confiance en lui, même si un jour nous allons mourir, cette fosse, cette mort éternelle, n'aura pas de prise sur nous. C'est une certitude, non pas parce que nous méritons ça, mais parce que Jésus l'a mérité à notre place. Nous sommes bien faibles, bien fragiles. Avoir la fidélité de Jésus, avoir la fidélité aussi de Daniel, ça nous humilie. Mais la bonne nouvelle, c'est que si nous nous soumettons à Jésus, le roi que Dieu nous a donné, nous pouvons avoir la conviction que grâce à lui, la fosse n'aura pas le dernier mot sur nous. Le royaume de Dieu ne sera jamais détruit. Avant de conclure, on pourrait se dire que ce message de Daniel 6 ressemble drôlement à celui du chapitre 3, où les amis de Daniel ont été délivrés de la fournaise ardente. Et en effet, il y a beaucoup de similitudes, beaucoup de leçons comparables, mais aussi des différences aussi. Cette fois-ci, le roi est un Mède qui a vaincu l'ancien dictateur de Babylone. Ce roi semble être bien disposé envers Daniel. Il veut lui donner une promotion. Même quand il doit quand même condamner Daniel à la fosse au lion, il lui souhaite de tout son cœur d'en être délivré. Et dans la nuit, on voit qu'il est anxieux. Et on peut avoir beaucoup de sympathie pour ce roi Darius. Pourtant, il est bien faible. Il est manipulé par des hommes tordus. Il est incapable de changer sa propre loi. Incapable de délivrer Daniel de la mort. Et la leçon est donc claire. Nous devons nous confier toujours en Dieu. Père, Fils et Saint-Esprit. Les régimes changent. Les rois changent. On peut être tenté de mettre notre espérance en un meilleur roi, en un président plus ouvert aux valeurs chrétiennes, en une loi plus juste. Mais non, le seul sauveur, c'est l'Éternel. Car c'est lui le seul Seigneur. Il est celui dont le royaume ne sera jamais détruit. Et si cela est notre conviction, si nous savons qu'en Jésus, rien ne prévaudra contre son Église, si nous avons l'intime conviction que Jésus aura le dernier mot dans l'histoire et aussi dans nos histoires personnelles, l'intime conviction que son royaume ne sera jamais détruit, on aura le courage de rester fidèle. Par grâce, Dieu nous donnera le courage de rester fidèle. Comme pour Daniel, il nous fera persévérer jusqu'à la fin. Alors c'est intéressant qu'il le fasse par les moyens tels que la discipline, tels que la prière. Le plus important pour nous, si nous allons résister face aux tentatives sournoises de mettre à bas notre foi au travail, peut-être en famille, au lycée, à la fac, le plus important c'est fort de cette conviction que son royaume a déjà vaincu notre ennemi ultime, la mort, que nous sommes déjà vainqueurs en Christ, déjà cachés en Jésus. Fort de cette conviction, on doit choisir jour après jour la fidélité constante. Choisir jour après jour, par la grâce de Dieu, d'adorer Dieu, de l'adorer de manière constante, de nous agenouiller devant lui, devant Jésus, en toute simplicité, jour après jour. Et de lui faire confiance pour le reste. Je vous invite à la prière. Prions. Notre bon Père Céleste, nous nous savons bien faibles, bien fragiles. Si ça dépendait de nous-mêmes, on ne serait pas fidèles. En nous-mêmes, nous n'avons pas les ressources pour être fidèles. Nous avons besoin de ton esprit. Nous avons besoin de ton évangile, nous avons besoin de voir clair, comme Daniel a pu voir clair. Donne-nous, par l'évangile, par Jésus, cette conviction intime qu'en lui tu as remporté la victoire, que la victoire est déjà là. La mort est mort dans la mort de Jésus. Et nous sommes cachés en lui. Et Père, nous allons te demander fort de cette conviction-là, donne-nous cette persévérance constante, cette fidélité constante. Pose dans nos vies des habitudes comme la prière qui vont nous aider à persévérer dans les moments d'épreuve. Aide-nous à être disciplinés, à dépendre de toi jour après jour, à ne pas dépendre de nous-mêmes. Donne-nous ce désir quotidien de tout remettre à toi. Tu vois que nous sommes fragiles, nous sommes faibles, nous sommes inconstants, nous avons du mal. J'ai du mal aussi. Aide-nous à voir clair et venir tous les jours devant toi, dans la simplicité, dans la prière. Nous avons besoin de ton aide cette semaine. Nous t'en prions, au nom de Jésus. Amen.